Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses de cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Sputnik pour une nouvelle édition des chroniques de Jacques Sapir, que nous plaçons aujourd'hui sous le signe du Bitcoin et des nouvelles monnaies numériques. Depuis la fin des années 2000, et plus précisément 2009, des réseaux novateurs de paiement en ligne permettent d'effectuer des transactions anonymes et cryptées, et ainsi de créer de l'argent sans le concours d'une quelconque autorité centrale étatique. Incontestablement, avec plus de 15,5 millions d'unités monétaires en circulation, pour une valeur totale oscillant entre 6 et 7 milliards de dollars, le Bitcoin est aujourd'hui le réseau le plus important dans la galerie monétaire numérique. Le Bitcoin, par ailleurs, est un facilitateur ou un producteur de technologies qui intéresse les États et les multinationales. En France, le ministère de l'Économie et des Finances, que dirige ce grand technophile de M. Emmanuel Macron, a adopté, à la fin du mois de mars, une ordonnance visant à créer des bons de caisse et des mini-bons pour les PME, justement à l'aide du système de transmission sécurisée des données financières que l'on appelle le blockchain ou la chaîne des blocs. Le volume de transactions en Bitcoin cependant stagne depuis 2014 à cause de ce qui semble être une crise interne au réseau et à la communauté. Je recevrai donc, en deuxième partie de cette édition, Maël Roland, chercheur et spécialiste des questions de socialisation monétaire. Nous continuerons, avec Maël, à discuter du développement du Bitcoin et nous poserons ensemble une question philosophique. La monnaie peut-elle durablement exister en dehors de l'État? Attention au démarrage imminent de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Sputnik France. La question des monnaies privées, telles que le pose le Bitcoin, n'est pas fondamentalement nouvelle. Ce qui est nouveau, évidemment, ce sont les techniques employées. Il faut rappeler ici simplement une expérience. Le développement de cette monnaie parallèle par les autorités de la province de l'Ontario au Canada au début des années 1930. Mais il faut aussi à ce moment-là comprendre pourquoi cette monnaie parallèle fut un échec. Eh bien c'est que fondamentalement, les autorités du Canada, ou plus exactement les autorités de l'Ontario, avaient décidé qu'elles garantissaient d'une certaine manière la transformation de cette monnaie parallèle en dollars canadiens, mais que, d'une autre manière, on ne pourrait pas payer les impôts avec cette monnaie. Ce qui fait, d'une certaine manière, ressurgir le rôle que joue l'État et, par extension, les banques centrales sur la question de cette monnaie. On voit très bien que des monnaies privées existent depuis d'ores et déjà fort longtemps. Ces monnaies privées sont aujourd'hui transformées en monnaie publique, en monnaie banque centrale, justement par l'action de la banque centrale. Et c'est ce qui permet de dire à des acteurs qu'ils pourront payer leurs impôts avec cette monnaie et qu'ils pourront, d'une certaine manière, être payés s'ils sont payés par l'État en cette monnaie. Ce qui fait que le rôle de l'État, et donc le rôle de la souveraineté de l'État, est aujourd'hui tout à fait fondamental dans la question de l'organisation du système monétaire. Les banques centrales, qui pendant tout un temps ont été d'abord privées, il faut rappeler par exemple que la Banque de France a été constituée comme une banque privée, même chose pour la Banque d'Angleterre, puis qui ont été progressivement absorbées par le système étatique. On sait qu'en France, cette absorption a été faite en plusieurs étapes, de 1936 à 1946. Et à partir de là, les banques centrales ont fonctionné comme des institutions dépendant de l'État, avant de revenir à l'idée d'une indépendance des banques centrales par rapport à l'État, ce qui a été, d'une certaine manière, mis en place en Europe avec le traité de Maastricht. Eh bien, on voit très bien là la question du rôle extrêmement important que les banques centrales peuvent jouer, mais elles ne peuvent jouer ce rôle que justement parce qu'elles sont quand même implicitement adossées à cette capacité des États de dire, ben voilà, vous allez payer vos impôts dans tel instrument monétaire et pas dans un. Ce qui renvoie par ailleurs à la fameuse distinction entre l'or et la monnaie papier. Alors, cette distinction, on lit dans les livres d'histoire qu'elle commence à la fois en Angleterre, en Hollande et en France, Mais en réalité, l'or, même quand il était utilisé massivement dans les paiements, n'était que très rarement détenu par des particuliers. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des lettres de change qui circulaient. Et d'ailleurs, la lettre de change, elle apparaît comme un système beaucoup plus sûr que l'or. Ah, si un bandit vous vole votre lettre de change, il ne pourra pas obtenir de l'or en échange. Donc, l'existence de ces lettres de change et l'existence de cette dichotomie entre l'or marchandise et l'or papier ne sont pas du tout des inventions récentes. Ce sont des inventions qui remontent, alors pour certains, au Moyen-Orient, entre le Xe et le XIIe siècle, pour d'autres qui remontent même au niveau de l'Empire romain, et qui vont, bien entendu, jouer un rôle extrêmement important. Mais il y a un dernier problème, le rôle de la dette. Et l'on voit très bien que, dans l'émergence de la monnaie, en particulier de la monnaie moderne, ce qui est important, c'est qu'il y a une dette entre deux individus, mais que cette dette, elle est transformée justement par la banque centrale, ce qui va permettre à cette dette de circuler comme moyen de paiement au niveau de l'ensemble de l'économie. Eh bien oui, nous sommes revenus à notre point de départ. Parce que pour que cette dette puisse circuler, il faut des conditions de stabilité, il faut des conditions de sécurité. Et c'est justement sur la question de ces questions de stabilité et ces questions de sécurité que l'on voit que le Bitcoin cherche à apporter des réponses. Je reçois aujourd'hui Maël Roland, économiste et sociologue, chercheur au Centre d'études des modes d'industrialisation de l'École des hautes études en sciences sociales, pour discuter des nouvelles monnaies numériques et en particulier, évidemment, du Bitcoin. Bonjour Maël Roland.
Bonjour Monsieur Sapir.
Maël Roland, le Bitcoin, comme nous avons pu le voir avec mes invités de mardi dernier, est à la fois une monnaie porteuse d'avenir en termes de développement technique, mais aussi c'est une monnaie à laquelle s'intéressent de nombreux États, voire des multinationales, en particulier à partir de la technologie du blockchain. Et puis c'est aussi une monnaie en crise, car les membres de sa communauté sont profondément divisés quant à la manière de fluidifier les transactions pour éviter toute saturation du réseau. Votre point de vue sur la question?
Effectivement, les choses ont bien été présentées aussi par mes deux collègues. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait distinguer deux types de consensus. Un consensus interne qui vient justement à pallier et rendre possible une monnaie sans garantie de tiers crédible. Et ça, c'est effectivement le système de cryptographie qui donne naissance à la blockchain. Celui-ci, de par ses paramètres techniques, vient à fonder le système monétaire, mais de par son développement et sa croissance, ces paramètres sont devenus pas totalement obsolètes, mais arrivent à des certaines limites. Ce qui vient donc poser une problématique nouvelle, c'est comment faire évoluer les paramètres du logiciel lui-même, puisqu'il est bien entendu en code source libre.
Alors attendez, qu'est-ce qu'on appelle code source libre ?
Alors, c'est-à-dire que comme l'intervenant que vous avez eu mardi vous l'expliquait, et il faisait référence à un système qu'on appelle Linux, c'est donc des logiciels dont le code source, l'écriture par les développeurs, est rendu libre à tous, selon différentes modalités, mais vous avez le droit de retélécharger les codes, de retravailler sur ceux-ci, éventuellement de proposer des modifications de code visant à implémenter le code original.
C'est intéressant. En fait, tout le monde peut faire des propositions de modifications, mais comment ces modifications sont-elles acceptées ? Il y a un mécanisme quoi de consensus ou c'est une autorité centrale?
Alors, c'est un mécanisme de consensus qui doit être encore défini. Le mot technique que ces personnes utilisent, c'est le mot fork, c'est une fourchette. On va partir d'un même code, mais de par les implémentations, deux codes différents vont émerger. Et il peut y avoir des soft forks et des hard forks.
L'idée autrement étant, dit, des fourchettes voilà, dures ou des fourchettes plus souples.
Des modifications qui n'entraîneraient pas l'obligation de tous les membres du réseau de changer directement pour le nouveau code, ou au contraire, être obligé pour tous très rapidement de télécharger le nouveau logiciel pour amener bien entendu la cohérence. Nous sommes en train de parler d'un système pair à pair. Il faut bien entendu qu'il y ait une cohérence interne entre tous les ordinateurs participant au réseau, et c'est pour cela que les contraintes de consensus ne seront pas les mêmes. Mais bien entendu, ce qui devient intéressant ici dans la prise de décision et dans les modifications du processus, c'est que toute personne qui a des compétences en code peut proposer des modifications, il sera, et le vote ici correspond à télécharger sur son ordinateur le nouveau code et de le mettre en place. Je tiens tout de suite à préciser ici que le Bitcoin, dans ce cadre-là, tout le monde n'a pas le droit de vote. On est bien en train de parler du logiciel des mineurs, c'est-à-dire les personnes qui ont mis en place sur leur ordinateur un logiciel spécial qui permet le traitement des données, qui permet en fait la validation des pulses cryptographiques qui donnent naissance à la blockchain et qui permettent sa sécurité. Donc en fait ici, effectivement, c'est de l'acceptation ou de la non-acceptation des mineurs de télécharger le nouveau programme sur leur machine qui va permettre ou non de valider une innovation. Et le débat dont les deux intervenants ont déjà parlé sur Bitcoin classique et Bitcoin Core, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de consensus à travers la communauté sur ces deux propositions, puisque chacune d'elles amène des avantages et des inconvénients en fonction de si vous êtes utilisateur ou si vous êtes mineur, vous ne le verrez pas de la même manière.
Maël Roland, par quel moyen le Bitcoin est-il reconnu comme une monnaie? Son procédé de création monétaire est appelé extraction ou mining. Y a-t-il un parallèle autre qu'une métaphore avec des monnaies plus archaïques, des monnaies marchandises?
Non, il n'y a pas de lien autre que métaphorique. Mais permettez-moi de souligner qu'en fait, c'est peut-être ce lien métaphorique qui sera, pour moi en tout cas, qui aime à réfléchir un petit peu à l'histoire monétaire et à la théorie monétaire, le plus important. La référence à l'or et au mining, au fait de miner, est présente quasiment sémantiquement et sémiotiquement partout, dans tout ce qui traite à ce secteur, sur leur site internet, sur les petits tutoriels, présent. Les vidéos représentent un ordinateur, en fait c'est une pioche qui est en train de découvrir des bitcoins qui correspondraient à des pépites d'or. Donc la volonté de faire référence à l'étalon or, aux monnaies métalliques, et en fait à la stabilité d'une certaine manière hypostasiée qu'elle permettait dans le contrôle exogène qu'elle fondait sur les politiques monétaires, se retrouve. Le Bitcoin fait référence explicitement aux monnaies marchandises, puisqu'il aime à valoriser le fait qu'il ne serait pas une monnaie inflationniste. De manière assez surprenante d'ailleurs, ils aiment à souligner qu'elle n'est pas inflationniste, elle est déflationniste, et ça, ils le verraient comme un avantage.
Oui, mais il faut savoir que quand on a justement cette très grande stabilité des prix, il peut y avoir d'autres facteurs économiques qui deviennent très instables, en particulier le salaire. Et la question se pose à ce moment-là, est-ce que ça ne va pas entraîner une baisse du salaire réel?
Alors, vous mettez le doigt sur, pour moi, le problème principal. Bien entendu, en venant bloquer une bonne fois pour toutes la question de la monnaie, ils sont totalement dans une idée que entre la monnaie et les prix, il n'y a qu'un cheveu. Et la transmission monétaire sur les prix est très très rapide. Nous sommes là dans des gens qui font référence à pardonnez-moi d'être un peu technique, mais la théorie quantitative de la monnaie, qui verrait que toute augmentation de la quantité de monnaie devrait entraîner une augmentation proportionnelle un petit peu des prix. Malheureusement, au niveau macroéconomique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et entre la monnaie et les prix, il y a un certain nombre d'éléments rigides qui peuvent s'interposer. Et bien entendu, le fait de décentrer, d'une certaine manière, la politique monétaire sur « nous ne pouvons plus toucher, nous rentrons là dans des règles intangibles », la politique monétaire ne pourra plus choisir, en cas de crise, d'agir en augmentant la masse monétaire ou en la baissant. Ici, ces canaux de transmission sont coupés. De fait, au niveau économique, il nous faudra retrouver d'autres marges de manœuvre. Si, lors de crise économique, le banquier central pouvait être questionné par certains groupes sociaux pour expliquer, enfin chacun expliquant les problèmes qu'il rencontrait, le banquier central avait à prendre une décision, il fondait un consensus social. D'ailleurs, le lien au trésor était un lien d'une certaine manière démocratique. En coupant ce lien-là, nous allons d'une certaine manière réintégrer un débat économique, un débat démocratique, peut-être sur la question des salaires et des prix, puisqu'il nous faudra fondamentalement, avec une monnaie qui tendanciellement s'apprécie, effectivement voir les prix réels diminuer avec les questions de maintien du pouvoir d'achat réel qui se poseront.
Oui, parce qu'on sait très bien que le problème, c'est ce qu'on appelle le prix relatif, et que les prix montent ou que les prix descendent, d'ailleurs, certains prix peuvent monter ou descendre beaucoup plus rapidement que d'autres, et c'est justement dans ces prix relatifs, dans ce mouvement des prix relatifs, que se joue toute une série de questions économiques. Une autre question, est-ce que ça n'est pas, d'une certaine manière, l'arrêt de mort des banques? que ce système. Parce que, si vous voulez, on va arriver dans un système où, grosso modo, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus d'État qui puisse intervenir.
Ce que vous décrivez, c'est la raison d'être du Bitcoin pour ses créateurs. Mais entre la philosophie première, la genèse théorique, qui se fonde dans du crypto-anarchisme, les cypherpunks, effectivement, vous avez souligné le côté libertaire, c'est certain, et c'est cette philosophie qu'il voulait porter. Arrêter la présence des tiers pour rendre possible l'interrelation individuelle sans médiation. Mais ils introduisent bien une médiation technique. Alors elle n'est pas intuitu personae, c'est-à-dire soit avec une personne physique, soit aussi avec des personnalités morales, la Banque centrale en étant une.
Alors, revenons un petit peu sur cette question, parce que, si vous voulez, ça pose en fait la question de la garantie étatique, ou de l'absence de garantie étatique que l'on trouve effectivement dans ce système, et évidemment les implications que cela a sur la stabilité et la gouvernabilité du système.
Oui, et, excusez-moi. Donc en fait, derrière cette grande idée anti-institutionnelle où l'État ne devrait pas être présent, au fond, l'émergence réelle depuis 2009 de ce système de paiement voit la réintroduction des tiers, voit l'importance de la confiance en certains acteurs. Et c'est en ce sens-là, encore une fois, qu'il y a une forme de dialectique à travers cette monnaie, entre une idée d'intermédiation presque directe, mais qui, au fond, va réintroduire un petit peu de confiance, elle plus localisée. La preuve en est, et c'est pour ça que un des intervenants a dit que bon, le problème de consensus aujourd'hui entre Bitcoin Core et classique n'amène pas de problème spécifique et devrait trouver une solution assez rapidement. Je suis assez d'accord sur les conclusions. Il m'apparaît, au vu des investissements énormes que certains acteurs économiques ont mis dans cette sphère, qu'il faudra et qu'elle sera préservée. Maintenant, début janvier, le cours s'est effondré, profondément effondré. Et beaucoup d'intervenants et d'analystes, j'ai tout de suite constaté, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut expliquer cet effondrement? Le jour même, un développeur du corps du système avait posté sur son blog un billet très incendiaire expliquant l'échec du Bitcoin. En fait, lui-même avait proposé une fourchette, un fork. C'était Bitcoin XT et la communauté n'a pas voté pour ce modèle. Donc, on peut comprendre que lui proposant quelque chose qui est refusé soit un petit peu en colère et se retire, mais le fait qu'il se retire a entraîné une défiance sur ce marché et un effondrement. Il est encore très jeune, le marché du Bitcoin, il est peu profond, il y a peu d'intervenants, et il y a une dimension que je tiens à souligner, que les personnes et la philosophie dans laquelle s'inscrit ce Bitcoin, je trouve, laisse un petit peu de côté, c'est la dimension les groupes sociaux qui peuvent s'approprier facilement ce type de technologie et d'autres groupes sociaux qui en sont plus éloignés. On postulerait presque que nous sommes tous informaticiens. Ce n'est pas la réalité. Et donc, au final, il y a aussi des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, sur certaines nouveautés, je ne suis plus là directement sur le Bitcoin, mais sur des extensions, soit des altcoins ou plus généralement le système Ethereum, on est face encore...
Est-ce que vous pouvez préciser?
Alors, le système Ethereum serait le déploiement de la technologie blockchain. Bitcoin, c'est partir du blockchain pour en faire une monnaie. C'est un système monétaire. Mais au fond, c'est une utilisation assez située. On pourrait faire beaucoup. Donc, on aura toujours besoin d'un tiers crédible qui va garantir que vous me payiez bien et que vous ne dégradiez pas mon bien et que moi, je vous fournisse les clés. Mais Ethereum exactement, va permettre, de par la technologie blockchain, de ne plus passer par aucun tiers. Nous aurons accès à des applications décentralisées, des DApp.
Attendez un instant. C'est qu'on va partir sur une idée extrêmement libertaire et quand on sera confronté justement à son impossibilité, on va revenir au contraire à une idée très autoritaire.
Je pense que cette dialectique joue. Et en tout cas, moi, je vois un mouvement profondément contradictoire de ce type. Le Bitcoin, depuis 2009, nous montre cette poussée. Oui, il s'est fait de manière assez décentralisée, avec des intervenants qui ne sont pas étatiques, qui sont privés. Mais de fait, de par les problèmes techniques qui sont en train de travailler la communauté est en train de mettre en place des institutions de plus en plus formelles. Vous avez eu des réunions qui ont été même qualifiées de G20 du Bitcoin, avec des représentants de la communauté des mineurs, les représentants des entreprises, des consommateurs.
Quelles sont les grandes entreprises, par exemple, qui sont intéressées par le Bitcoin?
Alors, les grandes entreprises... Il y aura bien entendu les entreprises qui fournissent le hardware, c'est-à-dire les entreprises qui aujourd'hui fournissent les machines.
Ça se comprend. Est-ce qu'il y a des grandes banques?
Alors, Les banques elles-mêmes montrent beaucoup d'intérêt aujourd'hui, pas tant pour le Bitcoin en tant que monnaie, mais pour la technologie qu'il porte. Pour rappel, ce qu'on a dit, hein, c'est que c'est open source. Donc on vous donne les codes. Donc le banquier, lui, n'a pas à acheter ou n'a pas à payer un salarié pour fabriquer le code.
On voit tout à fait l'intérêt pour un banquier.
Par contre, ce code peut le rendre propriétaire. Puisqu'un code est libre, il va pouvoir le rendre propriétaire. La blockchain chez eux, il faut pas penser qu'ils vont mettre en place des blockchains décentralisées. C'est pas leur but.
Donc il pourrait y avoir un mouvement d'appropriation privée sur des choses qui ont été conçues, justement, hors de cette idée d'appropriation?
Pour moi, c'est clair. Tout à l'heure, on amenait quand même l'idée qu'il restait aujourd'hui un consensus de manière très décentralisée. Il y a deux philosophies qui s'opposent à travers Bitcoin Core et Bitcoin Classique. Est-ce qu'on va donner plus de poids aux mineurs? Et c'est un choix, mais c'est un choix qu'on fait contre le consommateur, puisque le mineur peut avoir intérêt à voir les frais exploser, puisque lui, il les prend. Mais le consommateur, lui... Sur des transactions de faible montant, vous comprenez bien que ça va tout de suite devenir un problème. Et c'est là où, au fond, la forme et le contenu du Bitcoin futur est en train de se jouer. Est-ce qu'on va protéger un Bitcoin comme moyen de paiement, qui est facile et accessible à tous, ou au fond, plutôt qu'un simple moyen de règlement pour des très gros montants? Maintenant, j'ai envie d'étendre, comme on l'a fait pour Ethereum, à d'autres formes d'altcoin. Car de fait, les possibilités techniques de ces monnaies sont énormes. Le Bitcoin, dans son minage, il est fondé sur un consensus interne de preuve de travail. Il existe d'autres formes d'algorithmes qui permettent d'obtenir ce consensus. Donc, les différentes crypto-monnaies qui peuvent exister aujourd'hui, en fait, essayent de transformer, d'améliorer, d'implémenter le Bitcoin. Si le Bitcoin devait devenir une monnaie pour de très gros règlements, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une autre crypto-monnaie réservée pour des micro-règlements? Sachant que sur le même téléphone portable et dans les 5 minutes, vous pouvez avoir quasiment toutes les porte-monnaies disponibles pour les crypto-monnaies disponibles, et assez facilement en obtenir. Vous avez aujourd'hui des dispositifs sur votre téléphone aussi qui, en 5 minutes, vous permettraient de passer d'une crypto-monnaie à une autre. C'est-à-dire là, votre échange monétaire ne se passerait sans aucune transition d'une monnaie nationale. On passe bien d'une crypto-monnaie à une autre par un service informatique. S'effectue du change, et ça très rapidement.
Dernier point, vous avez parlé de cette question de change. Est-ce qu'il n'y a pas là une décision au niveau de l'Union européenne extrêmement importante?
Oui, alors sur le statut du Bitcoin, il est encore très problématique. On ne veut pas lui reconnaître bien souvent de statut monétaire. La Banque centrale elle-même n'en parle pas comme une monnaie, mais comme un véhicule, la BCE, oui, bien entendu. Et par contre, un arrêt effectivement assez récent de la Cour de justice des communautés européennes du 22 octobre 2015, effectivement rend un arrêt. On considère que les services de change en Bitcoin sont bien exonérés de TVA, ce qui vient à souligner la
caractère. Oui, c'est une monnaie. Ça veut dire que c'est reconnu comme une monnaie. Mais écoutez, c'était extrêmement intéressant. Maël Roland, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je m'appelle Samuel Goujon, je suis ingénieur informaticien, je travaille pour une start-up russe en Russie et qui est liée au projet Skolkovo. Et on fait un système de réservation pour tout ce qui est institut de beauté et cabinets médicaux, et je m'occupe du développement pour la France. Alors, je pense que contrairement aux monnaies légales, Bitcoin est une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'elle est en quantité limitée. Et la production de cette quantité ne dépend pas de décisions politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a contrairement à l'euro, par exemple, il n'y a pas de décision centrale. C'est l'ensemble du réseau qui gère la monnaie. Et donc, je pense qu'un système décentralisé, à terme, est plus efficace qu'un système centralisé comme les banques centrales. Alors, j'ai un compte courant qui me permet, bien sûr, d'utiliser le service de la carte bancaire quand je suis à l'étranger, notamment quand je me déplace. Mais non, j'épargne, j'ai pas de livret d'épargne, j'en ai plus, j'ai tout fermé et je mise essentiellement sur Bitcoin, dont je suis serein sur la valeur qui sera pérenne à l'avenir. Je pense qu'elle va même augmenter d'ici là, et puisque de plus en plus de gens en achètent et de plus en plus de gens s'intéresse à Bitcoin, la communauté grandit, et donc comme la valeur de Bitcoin dépend essentiellement de sa communauté, je suis plutôt optimiste pour l'avenir.
Chères auditrices et auditeurs, quoi qu'on pense du Bitcoin et des autres monnaies numériques, Le printemps de cette année 2016 sera certainement une période charnière pour le développement de ces institutions. Par-dessus le marché, nous avons l'émergence de la finance éthique en Europe et l'arrivée, avec le système Nickel, des comptes sans banque ouvrable en 5 minutes chez son buraliste. C'est manifestement une remise en cause profonde et radicale du système bancaire traditionnel qui se profile. Il est temps, à présent, de mettre fin à notre édition « Bitcoin et nouvelles monnaies numériques », édition au cours de laquelle nous nous sommes posés, mes invités et moi-même, des questions profondes sur la possibilité d'existence de la monnaie sans l'État. Je remercie Mourad Azri au montage et à l'habillage, Marc-Laurent Turpin à la réalisation et Clément Détry à la rédaction. Et je vous dis à très bientôt sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.